Donc, c'est encore une fois pour moi un honneur, une grâce de pouvoir partager la parole ce matin. On s'en va dans une partie, on arrive dans une partie de l'année où normalement, vous savez les messages qui s'en viennent. Hein, on s'en va dans le temps de Noël, on va parler de la crèche, on va parler de Jésus, de l'incarnation. Et moi, ce matin, je vous amène une balle courbe. Parce que j'écoutais les prédications à Joël les dernières semaines et je trouvais que ça allait directement dans le mille avec la continuité de Ecclésiaste au chapitre 3 qui est une étude. Mon objectif, c'est que d'ici 20 ans, on passe à travers Ecclésiaste, mais la réalité, c'est qu'on puisse passer au travers l'Ecclésiaste qui est un ancrage de plusieurs réalités qu'on vit exprimé poétiquement par Salomon dans le temps de l'Ancien Testament. Donc, on a passé du temps ensemble dans le livre de l'Ecclésiaste. Et on est arrivé la dernière fois ensemble à travers un poème que Salomon a écrit qui met en contradiction des moments bons et des moments plus difficiles. Et là, on arrive à la fin de réaliser que Dieu fait toutes choses pour notre bien, que Dieu aussi prend plaisir à nous fortifier, à nous former à la ressemblance de Christ à travers un peu n'importe quoi. Tout, en fait, Dieu va utiliser tout. Et donc, aujourd'hui, on continue, on va voir la deuxième partie du chapitre 3 qui va nous parler ensemble, on va faire un récapitulatif ensemble et on va parler précisément de la souveraineté de Dieu à travers toutes choses dans nos vies et spécifiquement, là, je n'irai pas dans les débats profonds que vous pouvez retrouver un peu partout. Si vous commencez à dire le mot « souveraineté de Dieu », peut-être que pour certains, les oreilles vous sillent, vous stressez, c'est dur à comprendre. Mais j'aimerais l'apporter et l'aborder d'une façon spéciale, de dire, soyons prêts en tant que chrétiens, il n'y a rien à l'épreuve de Dieu. Et Dieu nous aime tellement qu'il est prêt à utiliser n'importe quoi pour nous amener à lui. Et même utiliser des choses qui, pour un être humain, seraient incompréhensible. C'est l'objectif ce matin. Et pourquoi? Là, vous vous dites probablement, Marco, pourquoi tu t'en vas là juste avant Noël? Il y a plein de choses qui pourraient être plus simples, plus faciles, plus agréables. Mais pour moi, j'aimerais vous annoncer la chose suivante. Parler de la souveraineté de Dieu juste avant le temps des fêtes, eh bien, c'est simple, c'est qu'on arrive ensemble dans une période de l'année où c'est socialement acceptable de parler de Jésus. C'est socialement acceptable de parler de la naissance de Christ. La mise en place du plan divin de Dieu. L'apogée ou le crescendo de la révélation divine à l'homme. La mise en place des derniers éléments nécessaire au salut. Et là, on a une opportunité. La porte est grande ouverte. Personne ne va vous regarder bizarre si vous annoncez la naissance du Sauveur. Parce que ça leur donne quelques journées de congé. Ça leur donne une opportunité de se rassembler en famille. On ne sait pas trop pourquoi, mais la porte est toujours ouverte avec un congé. Hein? Et donc, Ça m'a vraiment encouragé à continuer cette lecture. Et je vous encourage à tourner dans vos Bibles. On va aller dans l'Ecclésiaste au chapitre 3. Et on va commencer à lire ensemble au verset 11. Et c'est la suite de où on était. Donc, dans notre récapitulation, vous donner une idée pour ceux qui sont avec nous pour une première fois ou qui se souviennent plus où est-ce qu'on était avant. On a parlé ensemble avec Salomon de l'Ecclésiaste. On a expliqué c'est quoi la vanité, que les choses arrivent et qu'elles sont pour un temps. On a utilisé l'image de la bulle de savon, que Quand on cherche quelque chose, une fois qu'on l'atteint, qu'on la prend, qu'on la touche, qu'est-ce qui arrive avec le savon? Ben, elle éclate. Et qu'est-ce que l'homme fait? Il s'en crée une autre, en espérant qu'elle soit plus belle, plus grosse, plus brillante. Et là, quand il la touche, qu'est-ce qui arrive? Elle pète. L'effet sonore est très important. Et c'est un peu sur cette idée qu'on bâtit l'Ecclésiaste. Et on a regardé ensemble ensuite comment Salomon décrit un monde cyclique. Le cycle de l'eau, le cycle de la vie, le cycle des gens, les rencontres qu'on fait. Et on est arrivé à la conclusion ensemble, je l'espère, que le monde n'est pas nécessairement cyclique, mais qu'il a un but. Et le but du monde tel que créé par Dieu est, premièrement, la glorification de Dieu éternellement à travers la création, à travers nos vies, et aussi de nous amener à une adoration plus concrète. Et ensuite, on a pris le temps de regarder dans le chapitre 2, une espèce d'introduction, on n'est pas allé trop loin là-dedans, mais dans l'hédonisme chrétien, l'hédonisme qui est cette discipline qui se veut être la recherche de la joie dans nos vies. Et comment le chrétien est appelé à chercher la joie dans sa vie, mais pas de la même façon que le monde. Mais l'homme a été créé pour chercher la joie. Et ultimement, on trouve notre joie dans la personne de Dieu. Et la dernière fois, pour finir le récapitulatif, on est allé ensemble et on a parlé, on a lu le poème que Salomon écrit « Il y a un temps pour toute chose ». Et on a regardé dans ce poème-là comment Dieu prend des choses, comment Salomon, en fait, a écrit sur des choses qui sont parfois bonnes, et il les a mis en contraste avec des choses dures, des choses difficiles, des épreuves. Hein? Il y a un temps pour rire, il y a un temps pour pleurer, il y a un temps pour se réjouir, il y a un temps pour être en deuil, il y a un temps pour bâtir, un temps pour détruire. Et on a regardé à quel point Dieu utilise chaque événement de nos vies pour sa gloire. Et aujourd'hui, on va aller encore dans la même pensée, la même approche. Et on va regarder maintenant aujourd'hui un verset clé qui m'a touché et c'est, bien entendu, pour ceux qui ont déjà tourné et qui ont lu pendant que je parlais, qui est dans le verset 14. Et donc, ce matin, avant d'aller plus loin, j'aimerais vous lire Ecclésiaste 3. On va lire les versets 11 jusqu'à 22. Ecclésiaste 3, versets 11 à 22. Donc, je vais commencer au verset 10, en fait. « Donc, j'ai vu à quelle occupation Dieu soumet les fils de l'homme. Il fait toutes choses belles en son temps, et même, il a mis dans le cœur des hommes la pensée de l'éternité. Bien que l'homme ne puisse pas saisir l'œuvre que Dieu fait du commencement jusqu'à la fin, j'ai reconnu qu'il n'y a de bonheur pour eux qu'à se réjouir et à se donner du bien-être pendant leur vie. Mais si un homme mange, boit et jouit du bien-être au milieu de tout son travail, c'est là un don de Dieu. J'ai reconnu que tout ce que Dieu fait durera toujours. Il n'y a rien à y ajouter et rien à en retrancher. Et que Dieu agit ainsi afin qu'on le craigne. Ce qui a déjà été et ce qui sera a déjà été. Et Dieu ramène ce qui est passé. J'ai encore vu sous le soleil qu'au lieu établi pour juger, il y a de la méchanceté, et qu'au lieu établi pour la justice, il y a de la méchanceté. J'ai dit dans mon cœur, Dieu jugera le juste et le méchant, car il y a là un temps pour toute chose et pour toute œuvre. J'ai dit dans mon cœur au sujet des fils de l'homme que Dieu les éprouverait et qu'eux-mêmes verraient qu'ils ne sont que des bêtes. Car le sort des fils de l'homme et celui de la bête est pour eux un même sort. Comme meurt l'un, ainsi meurt l'autre. Ils ont tous un même souffle, et la supériorité de l'homme sur la bête est nulle, car tout est vanité. Tout va dans un même sens. Tout a été fait de la poussière, et tout retourne à la poussière. Qui sait si le souffle des fils de l'homme monte et si le souffle de la bête descend dans la terre. Et j'ai vu qu'il n'y a rien de mieux pour l'homme que de se réjouir de ses œuvres. C'est là sa part, car qui le fera jouir de ce qui sera après lui? Prions. Seigneur Jésus, ce matin, on veut te remercier pour ta parole. On veut te remercier, Seigneur, de premièrement t'être révélé à chacun d'entre nous dans nos vies. On veut te remercier, Seigneur, du fait que tu nous instruis par ta parole et on veut te demander ce matin de nous parler. Encore une fois, par ton Esprit Saint, de nous montrer notre cœur, encore une fois, de nous montrer notre besoin et notre dépendance de toi. Et ce matin, je te prie de pouvoir parler à travers moi, de me donner les bons mots, de nous donner aussi tous et chacun, moi le premier, des oreilles pour entendre quand tu parles, pour écouter et aussi une bouche pour te glorifier, Seigneur. Que ta parole soit bien ancrée dans nos cœurs, que ton nom soit béni et glorifié, et que la personne de Jésus soit centrale dans nos vies. On te prie, Seigneur, toutes ces choses pour ta gloire et dans le puissant nom de Jésus. Amen. Donc, ensemble, on fait notre petit récapitulatif. Et là, je ne suis pas un professionnel des PowerPoint, mais pour que vous me suiviez, OK? On va faire un petit récapitulatif et on va regarder ensemble comment, dans le fond, il nous est impossible de comprendre Dieu. Dieu agit d'une façon qui est tellement supérieure à nous que même le plus grand des théologiens, quand il va rencontrer l'Éternel, Dieu va corriger sa théologie. Je vous l'annonce. Que malgré le fait que des fois on parle avec autorité, on doit toujours un jour dans notre vie s'arrêter devant Dieu et s'humilier de dire « Seigneur, je ne comprends pas. » C'est impossible pour l'homme de pleinement saisir. Et j'aimerais qu'on plonge ensemble un petit peu, prendre un petit temps pour regarder qu'est-ce que ça veut dire. J'aimerais aussi qu'on regarde ensemble le fait que l'Éternel utilise ce qu'il veut et que ses plans, bibliquement parlant, dans mon humanité, parfois je trouve qu'ils ne font pas de sens. Mais l'Éternel a un plan plus grand que mon petit cerveau. Troisième point qu'on va regarder ensemble, c'est que Dieu est un Dieu redoutable. Et c'est quelque chose d'important qu'on puisse se rappeler ensemble que notre Dieu est l'agneau qui enlève le péché du monde, mais que c'est aussi un Dieu redoutable avec lequel on ne peut pas négocier. Et Dieu est l'ultime autorité et je dois me soumettre en tant qu'homme à cette divinité qui ne pense pas comme moi et qui va utiliser des choses différentes de moi. Et finalement, j'aimerais qu'on puisse prendre un temps pour aller, encore une fois, dans l'adoration du Seigneur, pour voir à quel point Jésus, Christ, notre Seigneur, notre Sauveur, est la révélation ultime de Dieu. Donc, voyez le plan? On plonge. Donc, notre récapitulatif, on l'a regardé ensemble. On a parlé de la vanité, parlé que le monde est cyclique et qu'on est arrivé à dire que non, on ne veut pas un monde cyclique, on veut un monde qui s'en va vers le Seigneur. On a aussi regardé un peu cette recherche de la joie et le poème des contraires. Et là, on va aller ensemble, on va prendre le temps de réaliser qu'il nous est impossible de comprendre Dieu pleinement. Et on trouve la base ce matin, verset 3, chapitre 3, verset 11b, « L'homme ne peut pas saisir l'œuvre que Dieu fait. » Et ensemble ce matin, j'aimerais qu'on, premièrement, commencer en nous rappelant une chose, c'est que l'homme aime se créer une idée accessible de Dieu. Pasteur Joël en a parlé ce matin quand il nous parlait dans le repas du Seigneur dans Philippiens, comment les dieux humains qui étaient partout autour de Salomon, sont une espèce de création humaine. Chacun des dieux créés par l'homme avait des faiblesses, des péchés, avait soit un harem, faisait des choses terribles, et demandait des choses terribles à leur peuple, et les mettait, comment l'exprimer autrement que de dire, il est littéralement, il les persécutait. C'était des dieux qui régnaient par la peur. Et aujourd'hui encore, dans plusieurs parties du monde, dans plusieurs facettes religieuses du monde, on a cette même réalité-là que les dieux créés par l'homme demandent une adoration par la peur. Hein? Si tu m'adores pas, il va t'arriver des choses terribles. Si tu ne me donnes pas ça, il va t'arriver des choses terribles. Hein? Et on peut aller partout dans le monde. Je sais qu'il y a plusieurs endroits en Afrique et dans plusieurs pays du monde où même des chrétiens, c'est tellement ancré profondément qu'il y a une sorte de pouvoir, il y a une guerre spirituelle où il y a des chrétiens qui viennent à l'église et qui, dans leur poche, vont avoir ce qu'on appelle un gris-gris. Vous savez pas c'est quoi, hein? Il y a plein de gens qui savent c'est quoi dans la salle. Un gris-gris, une amulette, quelque chose pour se protéger du mauvais sort, se protéger des mauvais esprits. Et vous savez, le monde est régné par la peur. Et les divinités, plusieurs divinités de ce monde, qui ne sont pas des dieux, qui sont des inventions humaines, des inventions démoniaques ou sataniques, règnent par la peur. Et même aujourd'hui, dans notre monde nord-américain, très intellectuel, l'humanité est souvent prête à accepter une idée de Dieu, une force, une énergie. Et la réalité de base que chaque chrétien, on devrait mettre dans notre petite poche et comprendre, saisir, maîtriser, c'est la réalité que Dieu, bien qu'il soit tout-puissant, n'est pas une force. Que Dieu est un Dieu relationnel, vivant, facile à trouver, qui ne demande absolument rien de l'homme, si ce n'est la foi et l'obéissance en ce qu'il nous demande. C'est quand même intéressant de voir que dans notre monde nord-américain, l'intelligence humaine a pris tellement de place, même dans l'Église, qu'on va mettre des hommes sur un piédestal qui peuvent nous expliquer des réalités théologiques qui sont importantes. Mais la compréhension de l'Évangile semble parfois être plus importante que de le vivre pleinement dans ma vie. Et ça, c'est notre idole chrétienne. Je peux vous dire, c'est une lutte avec moi-même de comprendre plus, d'exprimer plus, d'avoir encore plus de connaissances, puis là, de pouvoir vous donner ça pour que vous aussi, vous puissiez avoir une connaissance et mieux connaître Dieu. Et ensuite, je vais minimiser peut-être parfois l'implication, le partage de l'Évangile pur et simple, la simplicité de cœur que Dieu demande, comment Jésus prend un petit enfant, le met sur ses genoux et dit « Que celui qui veut me suivre ressemble à ce petit enfant. » Je ne sais pas pour vous, mais avez-vous déjà demandé à votre enfant de 4 ans de vous expliquer l'origine des choses? Ça peut être drôle. Et donc, on a cette réalité-là que même dans notre vie, notre confort, ce qu'on est, il y a des pièges, il y a des idoles. Et l'Éternel se présente aussi comme un Dieu étant impliqué, un Dieu présent, un Dieu qui est vrai. Et vous pouvez voir que dans la parole de Dieu, Dieu est polémique. Et c'est un mot que j'aime bien, qui décrit le Seigneur. Dieu est, encore une fois, on se rappelle, Dieu n'est pas soumis au péché. Dieu ne commet pas de péché. Mais le terme polémique, c'est quand quelqu'un cherche débat, petite barre sur le côté, ou querelle avec quelqu'un d'autre. Il veut créer une polémique. Et Dieu est extrêmement polémique. Dieu attaque les autres divinités. Il se moque d'eux. Il les tourne en dérision. Et il fait comprendre à tout le monde qui regarde comment il est supérieur. Comment il est exceptionnel. Et on voit ça. Si vous voulez prendre un temps de voir comment Dieu est polémique, faites une petite étude des displays d'Égypte. Comment Dieu se moque littéralement des dieux égyptiens. Allez lire l'histoire d'Élie et des prophètes de Baal, comment Dieu se moque littéralement des faux dieux. Dieu se démontre bien supérieur aux idoles, aux faux raisonnements et même aux faux raisonnements sur lui. Dieu se démontre comme étant supérieur même à l'incrédulité humaine. Et ça, c'est dans l'incompréhension. C'est impossible pour moi de vous expliquer ces choses-là. Et c'est une première base qu'on doit poser ce matin ensemble. Comme c'est impossible de comprendre Dieu ou l'Éternel, le Dieu de la Bible. Et plus vous lisez la Bible, et on va aller ensemble, Dieu est polémique. Dieu aime confronter et briser nos idées préconçues. Comment tu peux agir comme ça, Seigneur? Honnêtement, on va se la poser souvent. Si quelqu'un lit sa Bible avec honnêteté, on peut se poser des questions. Et c'est normal parce que Dieu nous a créés afin qu'on soit des créatures de foi et non de vue. On est appelé à être des créatures de foi, des gens qui font confiance à l'Éternel coûte que coûte, même si je ne comprends pas tout ce que je lis. Et ça, mes amis, mes frères et sœurs, c'est difficile. J'aime comprendre, j'aime être intelligent et j'aime vous faire sentir que je suis intelligent. On appelle ça un mensonge, mais quand même. Et c'est l'idole, je pense, québécois, canadien, nord-américain, et c'est une plaie pour l'Église. Je ne vous dis pas d'être complètement inconscient et d'arrêter de chercher à comprendre les Écritures. Plus vous allez plonger vos regards dans les Écritures, plus Dieu va vous équiper et plus vous allez avoir faim et soif de connaître plus Dieu. Parce que vous allez réaliser que vous ne comprenez pas grand-chose. Mais pourtant, vous en comprenez plus qu'avant. Et puis là, je suis persuadé que si vous prenez le temps de demander à n'importe quel pasteur de l'Église de Trois-Rivières, ils vous disent « Plus j'étudie, plus je réalise que je ne sais rien, plus Dieu m'humilie et plus je veux le chercher. » C'est la réalité qu'on est appelé à vivre. Mais parfois, ce n'est pas comme ça qu'on l'exprime. Moi, j'aime bien vous dire que je comprends. Mais ce n'est pas toujours vrai. Je comprends le principe. Je ne suis pas capable de l'appliquer dans ma vie ou de le vivre. Et si vous voulez chercher un peu plus, vous pouvez lire dans Ésaïe 44 comment Ésaïe exprime le non-sens et la vanité de se créer une idole ou de mettre une idée au-delà de la simple foi en Dieu. Ceux qui se fabriquent des idoles, Ésaïe 44, 9, ceux qui se fabriquent des idoles le sont tous que vanité. Ces idoles n'ont ni la vue ni l'intelligence. Et il se crée ces choses-là afin que le peuple soit dans la confusion. Qui est-ce qui fabrique un dieu ou font une idole pour n'en retirer aucune utilité? Vos idoles ne servent à rien. Voici un homme coupe du bois, il brûle au feu la moitié. Avec le reste, il se fait un dieu. Il se fait son idole, il se prosterne devant elle. Il l'adore, il l'invoque et il s'écrie « Sauve-moi, car tu es mon Dieu ». Ils n'ont ni intelligence, ni entendement, car on leur a fermé les yeux pour qu'ils ne voient point et on leur a fermé le cœur pour qu'ils ne comprennent point. Et là, j'aimerais pousser un peu plus loin. Cette idée, parfois, qu'on se dit, les gens, dans ce temps-là, ils se faisaient une idole, là, ils se faisaient du bois, puis là, ils l'adoraient, son bain nono. Mais j'aimerais vous dire que c'est plus compliqué que ça. Vous savez, on en a parlé déjà dans un autre message quand je vous ai parlé de Élie et des Astartés, mais il y a cette réalité que l'homme a besoin d'ancrage dans sa vie. Et donc, il y a plusieurs personnes qui, avec l'idée d'adorer Dieu, vont se créer eux-mêmes leur propre ancrage. Mais le but de créer l'ancrage, c'est d'adorer l'Éternel. Et ça, c'est un piège. C'est un piège pour l'homme. C'est un piège parce qu'on en vient à limiter, on en vient avec un confort, on en vient à penser qu'on comprend et qu'on adore Dieu à notre façon. Et ça, c'est un autre sujet que je ne veux pas qu'on aille trop loin. Mais Dieu a demandé d'être adoré d'une certaine façon. Et bien que chaque église soit différente et que chaque être humain soit différent, il y a une chose que Dieu demande. Ne vous faites pas d'idole. N'essayez pas de vous faire une image de moi. N'utilisez pas une tierce personne ou une tierce chose pour m'adorer. Passez pas par quelqu'un d'autre. Venez me voir. Moi, pas moi, là, Dieu. Dieu dit, venez me voir directement, pas de niaisage, je suis vivant. Et donc, dans le verset ici, c'est impossible de comprendre Dieu, mais on voit que l'homme, nous, dans notre humanité, on ne peut pas comprendre ce que Dieu fait. C'est impossible parce que on est appelé à être des créatures de foi. Et j'aimerais vous amener, je vais vous citer beaucoup de noms qui ont suivi l'Éternel, qui ont eu la foi et qui ne connaissaient pas l'Éternel comme nous, on le connaît aujourd'hui. OK, êtes-vous prêts? C'est une liste de noms, c'est un blitz qu'on appelle. OK? Tout le monde est prêt? Donc, les gens qui ont agi et cru en Dieu sans savoir ce que Dieu faisait. Seth, premier sacrifice qu'on a dans la Bible, il fait ce que Dieu lui demande. Qu'est-ce qui arrive? Il se fait tuer par jalousie. Noé, Dieu il a dit créer une arche parce que le jugement s'en vient. Est-ce qu'il savait à quel point ça allait fesser? Je pense pas. Abraham avait aucune idée de ce que Dieu était en train de faire. Jacob, avec tous ses complots, pensez-vous qu'il savait ce que Dieu s'en allait faire? Joseph, pensez-vous que Joseph était au courant de ce que Dieu faisait? Josué, et on peut en nommer plein d'autres, Samuel, où Dieu lui dit, « Toi, tu regardes à ce qui frappe les yeux, moi, je regarde au cœur. » Et une chose que tous ces hommes-là ont en commun, c'est qu'ils ont obéi à l'Éternel, ils ont obéi à Dieu sans avoir ce qu'on appelle le big picture ou le plan plus grand de Dieu. Et on peut aller même plus loin avec des choses plus proches de nous. Les disciples ne comprenaient pas ce que Jésus faisait. Jésus a dit aux disciples, « Ce que je fais maintenant, vous ne le comprenez pas, mais quand l'Esprit sera venu, il vous révélera toutes choses. » Paul, au début de sa vie, comprenait absolument rien, jusqu'à ce que l'Esprit de Dieu le rencontre, jusqu'à ce que Jésus le rencontre sur le chemin de Damas. Et croyez-moi, quand Jésus vous rencontre, ça fesse. On tombe sur le dos. Et la réalité importante, c'est que l'Esprit Saint de Dieu est la seule façon de commencer à comprendre un peu le plan de Dieu. Et que toute autre approche est basée sur une idole. Et là, vous vous dites, où est-ce que tu as trouvé ça dans Ecclésiaste? Dieu, il est impossible à l'homme de saisir l'œuvre que Dieu fait du commencement jusqu'à la fin. Parce que Dieu est centré sur son plan et son but. Donc, l'humanité aime ce qu'elle comprend. Ensemble, moi j'aime ça comprendre. Dieu est différent de nos idées. Dieu utilise des choses. Et on a l'exemple de grands hommes de foi. Et là, on va aller dans le point, l'Éternel utilise ce qu'il veut. Et c'est mon point central ce matin. Et une chose qui m'a bouleversé en lisant les Écritures cette semaine, en préparant ce message-là, c'est la réalité. Excusez. C'est la réalité que Dieu n'a pas peur de rien. Et que l'Éternel utilise tout, même le péché, pour nous appeler à lui. Et que l'Éternel n'a pas peur d'utiliser le péché dans ma vie pour son bien. Ce matin, on va parler de la souveraineté de Dieu. Oui, croyez-moi. Dans le thème central des Écritures où Dieu fait ce qu'il veut. Au verset 11, ça nous dit la chose suivante. Et au verset 14, j'ai reconnu que tout ce que Dieu fait durera toujours et qu'il n'y a rien à y ajouter, rien à en retrancher, que Dieu agit ainsi afin qu'on le craigne. Et comme je vous parlais tantôt, et on peut aborder les aspects de différentes manières, cette idée-là de la souveraineté de Dieu. Et il y en a qui vont et qui l'appliquent à toutes les sauces. Et je ne veux pas aller là ce matin. Moi, j'aimerais qu'on le regarde ensemble en lien avec la capacité divine à utiliser les moments difficiles, les péchés, les miens et ceux des autres, les brisures ou les drames causés par le péché. Que Dieu utilise des hommes, qu'ils soient bons ou mauvais, pour accomplir sa volonté. Et que Dieu ne reculera devant rien pour nous sauver. Et que Dieu va utiliser peu importe ce qui va marcher pour vous appeler. Des fois, la fin justifie les moyens. Avec l'Éternel, c'est vrai. Mais les moyens de Dieu et les buts de Dieu ne sont pas les nôtres. Et c'est simplement parce qu'on vit un peu plus loin dans la révélation progressive et que l'Esprit-Saint de Dieu habite en vous et moi, je l'espère, qu'on peut comprendre ces choses-là. Et on a des prophètes de l'Ancien Testament. Si vous allez lire le livre d'Habacuc, c'est juste ça. L'idée d'un prophète de Dieu qui regarde un peuple violent, terrible. Et si vous lisez ce qui faisait le peuple qui s'en venait juger Israël, vous aussi, vous vous seriez questionné. Et Habacuc se pose la question et dit, « Seigneur, pourquoi tu utilises ce peuple-là? Ils sont pires que nous. Seigneur, pourquoi tu utilises le péché? Pourquoi tu utilises les méchants? Pourquoi, Seigneur? Je ne comprends pas. » Et si vous lisez Habacuc, vous savez c'est quoi la réponse? Le juste vivra par la foi. Fais-moi confiance. Tu n'es pas appelé à comprendre ce que je fais. Tu ne le comprends pas maintenant, tu le comprendras plus tard. Puis plus tard, c'est peut-être dans la présence de Dieu dans l'éternité. Tu ne comprends pas ce que je fais. Et quand tu commences à penser qu'il faut que tu comprennes, tu fais comme moi, puis tu tombes dans une dépression finie parce que tu dis, Seigneur, plus je comprends, moins je comprends. Qu'est-ce qui se passe, Seigneur, aide-moi. Puis là, tu tombes à genoux puis tu dis, Seigneur, sauve-moi. Et c'est le but. C'est le but de Dieu. Je suis complètement dépendant de Dieu dans ma vie. Et j'aimerais souligner, j'ai un autre exemple à vous donner. Si vous allez dans Daniel au chapitre 5, vous allez rencontrer l'homme le plus puissant de la planète dans ce temps-là, qu'on appelle le roi Nebuchadnezzar. Essayez pas de l'écrire, j'ai essayé. Et on retrouve le roi Nebuchadnezzar au pouvoir et Dieu l'appelle son serviteur. Parce que Nebuchadnezzar, c'est serviteur de Dieu. Nebuchadnezzar. Si vous connaissez l'histoire, c'est un homme qui n'avait pas peur de faire cuire des gens dans son fourneau parce qu'il ne l'adorait pas. C'est un homme qui a jeté du monde dans une fosse aux lions parce que les gens avaient refusé de l'adorer lui. C'est un gars qui se prenait pour Dieu. C'est un gars qui a établi, qui a conquis des nations. Et je ne vous dis pas combien de personnes sont mortes à cause de ce gars-là. Et là, l'Éternel dit, « Nebuchadnezzar, mon serviteur. » Et puis là, vous vous dites, comme moi, je comprends rien. Mais là, si vous allez au chapitre 5, on a ce moment-là où Dieu s'est servi de cet homme-là et lui a rappelé sa place. Si vous avez le temps cette semaine, allez lire Daniel au chapitre 5. Comment Dieu a pris l'homme le plus puissant de la planète et il a fait manger du gazon pendant 7 ans. Jusqu'à ce que cet homme-là réalise tout ce que j'ai, je le dois à Dieu. Honnêtement, wow! Dieu peut, veut et va utiliser n'importe quoi pour accomplir ses desseins, parce que ses desseins ne sont pas nos desseins. Et vous connaissez le verset, « Mes pensées ne sont pas vos pensées. » la sagesse de Dieu est folie pour les hommes et la sagesse des hommes est folie pour Dieu. Et c'est là qu'on est. On est dans, avec l'homme le plus sage dans Ecclésiaste qui nous dit, et certaines des histoires qu'on a regardées ensemble ne sont pas arrivées encore, mais lui, il regarde toutes les choses qui se passent, il regarde le bon, le mauvais, et il comprend comment Dieu utilise tout, même le péché. Et là, si vous voulez qu'on prenne le temps, il y a des hommes de Dieu qui sont sortis de relations pécheurs. Si vous regardez les ancêtres de Jésus, on a des prostituées, on a des gens, on a des hommes qui sortent littéralement de viol, qui Dieu a utilisé quand même. Dieu avait un plan pour chacune des personnes. Des choses terribles que tout être humain sur Terre, on se dit, c'est n'importe quoi, c'est dégueu, on ne veut pas de ça, c'est mauvais. Et Dieu est quand même au contrôle de choses terribles. Donc, peu importe ce qu'on a vécu, Dieu peut et va l'utiliser pour nous appeler à lui. Et on est appelé à s'humilier par l'Esprit-Saint, à lui faire confiance. Dieu se plaît à utiliser n'importe quoi pour notre bien. Et c'est aussi, ça fait aussi partie d'accepter la réalité que ça ne se passe pas toujours comme je veux, mais aussi que Dieu avait un plan et que parfois, vous savez, c'est une réalité extrêmement bouleversante de réaliser que les péchés humains, même s'ils sont contre la nature de Dieu, dans son omniscience et son omnipotence, Dieu les utilise pour son but. Que ce soit pour nous rappeler à lui, que ce soit pour nous amener à une repentance, à une humilité, ou que ce soit simplement pour juger. Dieu utilise toutes choses. Et vous savez, on va terminer en glorifiant le Seigneur Jésus, mais sachez que notre salut trouve racine dans le plus grand des péchés de l'humanité, qui est celui d'avoir crucifié le Fils de l'homme, le Fils de Dieu, sur la croix. Notre salut vient du plus grand péché jamais commis, qui est d'avoir crucifié le Fils de Dieu sur la croix. Notre salut vient de la réalité que Dieu a empêché Adam de manger de l'arbre de la vie, qu'il a voulu que l'humanité soit mortelle. Et la mort, qui est un rappel à tous et chacun, qu'un jour on va rencontrer le Seigneur. Et cette même mort-là, c'est ce que Dieu a décidé d'utiliser, pas une fois que l'homme est tombé, là, dans l'éternité passée, avant même que vous et moi on soit une pensée dans la tête de nos parents, avant même que la terre soit créée par la parole de Dieu, Dieu avait choisi d'utiliser la mort de son Fils, qui pour moi, c'est le plus grand des péchés ever, jamais commis. Il n'y en a pas d'autre, il n'y a pas pire que ça. Il n'y a rien qui peut arriver. Dieu a décidé d'utiliser ça. Mais en plus, tout ce qui a mené à son arrestation, c'est des péchés. Judas l'a trahi, imaginez. Pas pour rien là, qu'il a vécu la pire culpabilité ever, puis il l'a vécu de la pire façon ever. Mais Dieu utilise n'importe quoi pour nous sauver. Et Dieu n'a pas peur de vos petits péchés. Dieu n'a pas peur de ce qui vous détruit par en dedans. Dieu n'a pas peur de ce qui vous amène à pleurer devant lui puis de dire « je ne suis pas capable, je suis dépendant ». Dieu n'a pas peur de ces choses-là. Dieu peut et va les utiliser si vous lui faites confiance pour vous amener à lui. Et c'est là qu'on arrive avec notre prochain point. Dieu est redoutable. Si vous prenez le temps de réfléchir avec moi comment Dieu peut utiliser absolument tout, on se rappelle que Dieu est Dieu. Hein, ça fait du sens ce que je viens de dire là. Dieu est Dieu. Je ne peux pas comprendre ce qu'il fait, mais ça me rappelle aussi que Dieu est terrifiant. Dieu est redoutable. Dieu est un Dieu avec lequel on ne peut pas niaiser en bon québécois. On ne peut pas prendre Dieu à la légère. C'est terrifiant de savoir que Dieu, dans sa souveraineté, surtout, dans son omniscience surtout, connaît non seulement chacun de mes péchés, chacune de mes pensées, chacune de mes actions. Dieu, dans son omniscience, est au courant de tout ça et il m'aime pareil. Il me sauve pareil. Il a donné son Fils pour moi. C'est aussi terrifiant de réaliser que Dieu va utiliser tout ce que je fais dans ma vie pour me ramener à lui. Et que, malheureusement, si je décide de courir les deux pieds dans le péché, Dieu va l'utiliser pour me ramener. Mais savez-vous quoi? Ça se peut que ce ne soit pas agréable. Parce que Dieu est un bon Père. Parce que Dieu est un Dieu qui est au-dessus de toute notre compréhension. Que Dieu n'est pas surpris que peut-être, à chaque fois que ça ne va pas bien, vous courez dans quelque chose qui n'a pas de bon sens. Dieu n'est pas surpris. Il ne fait pas comme « Oh non, pensais qu'on l'avait eu. Hey, » non. Non, Dieu n'est pas surpris. Et c'est là la réalité que Dieu va et peut et aime utiliser n'importe quoi. Et il va nous rappeler à lui. Le but de Dieu, on en a parlé la dernière fois, c'est de nous amener à la ressemblance de Christ. C'est de nous amener à détester le péché, à avoir cette même vision que Dieu a du péché. Pas comment moi je le vois, mais comment lui le voit. Et cette facette-là de Dieu vient, elle se concrétise, elle s'est vue, alors que malheureusement, dans le jardin d'Éden, alors que j'ai décidé en tant qu'être humain de suivre mes propres penchants au lieu de suivre l'Éternel, je suis maintenant incapable de suivre Dieu. Et Dieu, dans sa sagesse, nous a donné son Fils. Dieu nous rappelle qu'il est redoutable. Et si vous lisez Ecclésiaste au chapitre 3, verset 17, il va avoir un jugement. « J'ai dit dans mon cœur, dit Salomon, Dieu jugera le juste et le méchant, car il y a un temps pour toute chose et pour toute œuvre. » Et Paul nous dit un peu la même chose. Si vous lisez ensemble, Hébreux, en fait, l'auteur des Hébreux nous dit, on ne sait pas c'est qui, mais « Il est donné à l'homme de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. » Paul nous dit dans 2 Corinthiens au chapitre 5 que nous serons tous appelés. Et là, il parle aux croyants, nous serons tous appelés à comparaître devant le tribunal de Christ afin de répondre de nos actions devant Christ. Comment est-ce qu'on a géré ce cadeau et la grâce que Dieu nous donne? Mais aussi, on voit dans la fin d'Apocalypse, au chapitre 20, on voit comment toute la planète, toute la terre entière est appelée à se présenter devant l'Éternel. Les livres de vie sont ouverts et toute chair qui n'est pas en Christ est jugé éternellement. Dieu est terrifiant. Mais on n'est pas ici pour vous terroriser avec l'enfer ou avec toutes ces choses-là. Non, non. Ces choses-là sont vraies. On n'est pas là ce matin pour en parler dans tous les détails qu'on peut avoir dans notre petite compréhension humaine. Mais on est là ce matin pour encore une fois se rappeler comment Dieu est redoutable. Et il va utiliser n'importe quoi et tout pour sa gloire. Et là, on arrive dans la fin. Vous savez, je passe vite là, mais on a parlé de ça. Comment je suis appelé à me rappeler que l'Éternel connaît tout de moi. Il sait comment avoir mon attention. Chacun d'entre vous, vos pitons sont différents des miens. Dieu sait exactement sur quel piton peser. Mais aussi que ses jugements sont parfaits. Si Dieu décide que je mérite quelque chose, je le mérite. Et ça va me faire grandir. Je peux me rebeller et partir en rébellion puis en crise de bébé Lala, qui est un mot interdit dans ma maison, mais je peux partir et faire une crise de bébé Lala. Ça ne changera rien. Le Seigneur sait que j'en ai besoin. Et là, on arrive au but ultime. Christ est l'ultime révélation que Dieu utilise ce qu'il veut et rien d'autre. Il est l'ultime révélation de Dieu. On est dans le crescendo. Et pourquoi on en parle juste avant Noël? Parce qu'on a le droit, là, dans les deux prochaines semaines, de prononcer le nom de Jésus et de se rappeler qu'un jour, Dieu s'est incarné. Il a pris une forme de serviteur et il s'est laissé crucifié pour nous. Il s'est humilié. Le Dieu créateur de l'univers, dans un corps de petit bébé, à apprendre à marcher, à être dépendant de Marie qui l'allait, à être soumis à son père, qui est un charpentier. Si vous avez déjà travaillé avec un charpentier, je les aime, là. Ben, c'est ça. Les plombiers aussi, Fabien. La réalité, c'est que le Seigneur s'est humilié et il a décidé d'utiliser des moyens qui sont ultimes. Et il a décidé d'utiliser le péché, la mort. Il a décidé d'utiliser son Fils. Il a décidé que ce serait par les meurtrissures et les blessures de Christ. Dieu, d'éternité en éternité, a décidé que l'aboutissement ultime de notre salut serait la destruction physique de son Fils. Le plus grand péché commis par l'humanité serait le salut. Parce que Dieu connaît le cœur de l'homme. Dieu sait que nous sommes rebelles. Dieu sait que nous avons besoin de son esprit pour comprendre. Et ce matin, j'aimerais qu'on puisse ensemble louer le Seigneur. Parce que Dieu utilise toutes choses pour notre bien. Dieu a utilisé les choses les plus terribles que l'humanité a connues, la croix, l'instrument de torture, et qu'il l'a pris sur lui. J'aimerais aussi qu'on puisse ensemble adorer le Seigneur parce que Dieu utilise des choses parfois incompréhensibles pour nous dans le but de nous amener à lui, dans le but parfois de nous restaurer, dans le but parfois de nous briser, et que parfois on est malheureusement pris dans les choses du monde qui sont terribles. On est pris dans nos problèmes. On est pris dans les péchés des autres. Peut-être qu'il vous est arrivé des choses qui sont terribles, qui vous ont brisé. Mais ce matin, vous êtes ici avec nous et j'aimerais vous dire que vous pouvez tout donner à Jésus. Que votre lutte avec le péché, donnez-la au Seigneur. Donnez-la à Jésus. De votre vos doutes, peut-être, sur la foi, sachez que c'est normal. Si ce n'était pas de l'Esprit de Dieu, on serait tous dans le doute. Et on ne comprendrait rien. C'est bon ensemble, et c'est le but, juste avant l'entrée de Noël, qu'on puisse célébrer le Seigneur Jésus, qui est venu sur terre, qui a vécu une vie parfaite, qui nous a enseigné, qui est mort sur la croix, mais aussi qui nous a donné l'Esprit Saint. Soyons reconnaissants ce matin ensemble pour l'œuvre de Dieu dans nos vies. Soyons reconnaissants du fait que le Seigneur, dans toute sa sagesse, il prépare le jugement à venir. Donc, pour tous ceux et celles qui souffrent, il y a un jugement qui s'en vient. Tous ceux et celles qui vivent des moments difficiles, il y a une délivrance qui s'en vient. Tous ceux et celles qui se questionnent sur l'avenir, il y a une paix disponible en Christ. Et on est appelé à pouvoir l'adorer, le louer, et le remercier. Dans ce temps de Noël-là, ne soyons pas gênés d'annoncer sa gloire, d'annoncer son plan, et ensuite, on va faire confiance au Saint-Esprit que lui va nous convaincre. Si ce matin, vous avez des luttes, des questionnements, vous vous posez des questions, sachez que on n'a pas besoin de tout comprendre pour faire confiance à Dieu. Sachez que peu importe le péché que vous vivez, Dieu est plus grand que votre péché. Christ a plus de valeur que votre péché. Et Christ va, avec joie, vous donner sa grâce. Si vous êtes en questionnement, Christ va, avec joie, vous donner une direction, si vous la cherchez par l'Esprit. Faites-lui confiance, aimez-le, et donnez-lui tout ce qui peut être dans votre vie. Les bonnes, les mauvaises, vos bons coups, vos péchés, vos succès, vos échecs. Donnez toutes choses à Dieu. On va prier. Seigneur, on te remercie de ce texte qui nous rappelle comment c'est impossible de te comprendre. Comment tu utilises toutes choses, même nos péchés, pour ta gloire. Et comment, Seigneur Dieu, ultimement, tu gagnes et tu juges. Seigneur, ce n'est pas d'une compréhension humaine qu'on peut vivre ces choses-là, qu'on peut les comprendre, mais c'est vraiment par ton Saint-Esprit. Je te remercie, Seigneur, du fait que tu donnes ton esprit à l'Église. Je te remercie, Seigneur, que tu nous fortifies dans notre foi, peu importe les épreuves qu'on vit. Et je te prie, Seigneur, s'il y a des gens qui ne te connaissent pas, qui n'ont pas ton esprit en eux et qui luttent, eh bien, Seigneur, que tu puisses nous utiliser, tous et chacun. Que par ton Saint-Esprit, nous puissions, Seigneur Dieu, leur parler, les convaincre. Que tu puisses, Seigneur, faire ton œuvre dans le cœur, là où aucun homme ne peut avoir accès, Seigneur. C'est toi qui as accès à nos cœurs. C'est toi qui brises les forteresses. Tu ne seras pas gêné d'utiliser nos péchés pour nous briser, Seigneur. Et donc, ce matin, s'il y a des forteresses, je te demande de les briser, Seigneur. Je te demande de, par ton Saint-Esprit, nous donner une grâce de pouvoir partager qui tu es. Seigneur Dieu, tu as tout payé à la croix. Ton plan est éternel. Tu nous le montres, Seigneur, dans ta première alliance avec Abraham, avec Adam, dans le jardin où tu as promis de nous sauver, d'enlever les péchés, Seigneur. On te remercie du fait que tu, d'éternité en éternité, voulais nous sauver, voulais nous utiliser pour être des instruments qui vont montrer ta grâce et ton amour, ton salut, ton pardon. Seigneur Dieu, fais que chaque personne ici qui n'a pas expérimenté ton pardon puisse chercher encore plus ta face, te faire confiance et, Seigneur Dieu, expérimenter ton pardon. Que ton Esprit Saint, Seigneur, soit ce qui nous dirige dans nos vies. Et, Seigneur, que dans cette période de Noël, on puisse vraiment, encore une fois, te remercier, t'adorer et te louer. Seigneur Dieu, merci pour tout ce que tu fais et on te prie ces choses pour ta gloire. Amen.